c'est du sang de Christ, en ce sixième dimanche après la Pentecôte, l'Église nous demande de méditer, ou plutôt nous méditons avec l'Église, ce beau miracle dans le désert de la multiplication des pains. Le miracle est flagrant puisqu'il se passe dans un désert où il n'y a pas de marchands, et les évangiles le notent expressément. La foule est nombreuse et il n'y a que 7 pains, et il faut donner à manger à tout ce monde. Alors oui, c'est un beau miracle, un miracle extraordinaire qui, comme tous les miracles, montre la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce miracle s'inscrit dans l'histoire du salut. Ce miracle vient après un autre miracle qui s'est passé au désert également et qui a été le miracle de la manne. La manne qui a été donnée au peuple hébreu qui, sorti d'Égypte et allant vers la terre promise, manquait de nourriture. Vous avez peut-être pris quelques provisions, mais enfin cela ne suffisait pas à passer 40 ans dans le désert. Alors, après avoir demandé à Dieu, les Hébreux vont obtenir cette récompense que Dieu leur donne. La manne tombe du ciel. Voilà ce qui est le pain descendu du ciel. Cela est très important parce que le miracle de Jésus-Christ aujourd'hui s'inscrit dans cette logique du désert, s'inscrit dans cette logique de la faim, s'inscrit dans cette logique du pain, de cette manne qui vient du ciel et que l'on peut également désigner comme le pain des anges. On verra pourquoi. Et ce pain est destiné à aller vers la terre promise. Aujourd'hui, ce miracle de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement là pour sceller ces divines paroles que pendant 3 jours il a données au peuple, elles sont là également, pour annoncer un autre miracle qui va être le miracle de l'Eucharistie. Tout ce qui se passe à la messe, est déjà en préfiguration, à la fois dans l'Ancien Testament, mais aussi ici dans ce miracle de Jésus. À la messe, nous avons à suivre Jésus pour écouter ses paroles. Et d'abord, pour pouvoir le faire en vérité, pour pouvoir le faire avec un maximum de profit, nous avons à partir avec Jésus au désert. Et nous savons combien ce désert est important. Le désert, c'est une coupure radicale avec le monde. On quitte la ville, on quitte nos occupations de tous les jours, on quitte nos préoccupations. Plus rien ne peut distraire notre attention parce que dans le désert, il n'y a rien. Ou plutôt, ou plus précisément, il n'y a rien que Dieu seul. Alors, pour pouvoir avoir cette relation intime, profonde, vivante avec Dieu, nous avons à aller au désert. Et la messe, justement, est aussi un lieu en principe de désert. Parce que nous devons couper avec le monde. Nous devons couper avec nos préoccupations, avec tout ce qui fait notre vie de tous les jours, pour focaliser notre esprit sur Dieu seul. Alors, à nous de faire attention, lorsque nous arrivons à l'Église, de vouloir vraiment opérer cette coupure. S'il y a entre la rue et la nef, comme un narthex ici dans cette église, il faut profiter de cet espace même géographique qui se rencontre d'ailleurs dans la plupart des basiliques romaines, où on entre toujours dans l'église avec ce passage dans le narthex, qui est là comme un sas pour oublier tout ce qui est de la vie profane et rentrer dans cet espace sacré de l'Église pour une action sacrée qui est l'Eucharistie. Alors faisons ce désert en nous. Cela semble très important d'opérer cette coupure avec ce signe de croix, avec cette eau bénite, avec notre mise en présence de Dieu. Alors oui, nous pourrons profiter de quoi? Nous pourrons profiter de cette belle parole de notre Seigneur Jésus. Et toute la promesse, la messe des catéchumènes, c'est bien cette parole de notre Seigneur qui nous est donnée, cette liturgie de la parole qui est là avec l'épître, avec l'évangile. Et on sait bien que le graduel et l'alléluia, c'est aussi la Sainte Écriture. Les prières en bas de l'autel, c'est le psaume unicamé, c'est aussi la Sainte Écriture. Toute la parole de Dieu est là, et que nous avons à écouter profondément, à faire résonner dans notre cœur, à nous laisser instruire par cette parole. Pourquoi? Parce que cela, eh bien, nous met en disposition à accueillir le mystère de la foi. Cette parole de Dieu est déjà une vraie nourriture. Le Christ le dit. Alors, cela nous dispose profondément à faire des actes de foi profonds dans le mystère qui va advenir au moment de l'offertoire et du cadeau. Pendant 3 jours, cette foule a suivi Jésus en voulant, eh bien, se préparer à quoi il ne savait pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en faisant le miracle, eh bien, leur fait découvrir ce pain mystérieux, ce pain miraculeux, qui ne sert pas encore l'Eucharistie, mais qui est déjà pain miraculeux. Et cette foule, notre Seigneur le dit, cette foule est à jeun, et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas les renvoyer chez eux, parce que sinon ils vont défaillir. Notre Seigneur les a mis dans un état de manque, pour qu'ils puissent toujours plus apprécier et goûter le pain qu'il va leur donner. Eh bien, la messe, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi à jeûner avant d'arriver à l'Église, avant de communier. Pourquoi ? Pour nous préparer à comprendre l'importance de l'Eucharistie. Nous voulons avoir faim spirituellement de l'Eucharistie, mais rien de tel, parce que nous sommes corps et âme, que de nous préparer déjà dans notre corps, avoir faim également, parce que cela nous permet d'envisager la nourriture céleste que nous allons prendre comme une vraie nourriture. Le Christ le dit, « Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. » Et cette nourriture céleste est destinée à notre vie et à notre vie spirituelle. Ce pain est multiplié pour tous ceux qui sont là, et c'est le symbole aussi de l'Eucharistie. Notre Seigneur, lorsqu'il fait ce miracle de la transubstantiation à chaque messe, eh bien, le prêtre va consacrer autant d'hosties que nécessaire, et notre Seigneur se rend présent dans toutes les parcelles, eh bien, et dans toutes les hosties qui sont consacrées pour tout le monde. Cette multiplication, j'allais dire, de la présence substantielle, réelle, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain est multiplié. Et qui va distribuer? Ce n'est pas le Christ qui va distribuer en personne ce pain miraculeux. Il va le donner aux disciples, après avoir béni ce pain, après l'avoir rompu, après avoir rendu grâce, c'est-à-dire tout ce que, à la messe, eh bien, nous faisons, eh bien, il va le donner aux disciples, aux apôtres, pour qu'ils le donnent. Ici, nous avons un intermédiaire intéressant, parce que cela nous montre aussi qu'à la messe, même si c'est le prêtre qui consacre, en fait, c'est Jésus-Christ qui est le grand prêtre. C'est Jésus-Christ qui fait le miracle de la transubstantiation. Et le prêtre, eh bien, va donner, à l'exemple des apôtres, cette nourriture pour qu'elle puisse être distribuée à tous. La manne du désert, les pères de l'Église disaient qu'elle avait été distribuée par les anges. Elle avait été répandue sur le sol par les anges. Voilà pourquoi on l'appelle le pain des anges. Et voilà pourquoi l'Eucharistie est aussi appelée le pain des anges, faisant référence à cette manne miraculeuse des Hébreux. La finalité de tout cela, eh bien, c'est nourrir le peuple de Dieu. Nourrir ce peuple qui a faim de Dieu afin qu'il puisse arriver à la terre promise. Alors oui, disposons-nous, croyons, faisons des actes de foi, d'espérance et de charité en cette Eucharistie qui nous est donnée, qui est une vraie nourriture. Si nous voulons couper avec le monde, si nous voulons nous disposer dans la foi, si nous voulons jeûner, c'est pour que cette nourriture nous rassasie le plus pleinement possible. Et alors nous pouvons retourner dans le monde. car la plainte, il est dit que le Christ va congédier toute la foule. Elle a été rassasiée, elle peut désormais repartir dans le monde, repartir en étant chrétienne, repartir en ayant le Christ dans son cœur et ainsi pouvoir le donner aux autres, pouvoir en vivre et le donner aux autres. Alors faisons ce beau programme, accomplissons ce beau programme avec Notre-Dame de la Sainte Eucharistie, qu'elle nous permette de communier en vérité, qu'elle nous permette d'obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin pour faire fléchir ce vieil homme en nous, pour le faire diminuer, pour l'éteindre, je veux dire, en fait, pour le mettre de côté, et que l'homme nouveau, l'homme déjà dans son gloire à venir, mais déjà présent par l'Eucharistie, en route vers le ciel, nous puissions nous restaurer complètement et être désormais l'homme nouveau, glorifié déjà en ce monde et pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Père et Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.